Joe, please say it ain't so.
Murrayhead, né le 5 mars 1946 à Londres, baigne dès l'enfance dans un milieu artistique. Sa mère est actrice, son père réalisateur et producteur. Cette ambiance nourrie de théâtre, de musique et de récits l'oriente naturellement vers une double vocation, le chant et le jeu. Adolescence à peine entamée, il écrit déjà ses premières chansons et se produit dans de petits groupes londoniens tout en apparaissant dans des publicités et des rôles secondaires à la télévision. La carrière de Murrayhead prend son premier véritable essor à la fin des années 60 grâce au film The Family Way, mais c'est en 1970 qu'il accède à une notoriété internationale avec la version originale de Jesus Christ Superstar où il interprète Judas. Sa voix ardente et dramatique marque fortement le public. Le single Superstar devient un succès mondial et installe Murrayhead comme un artiste singulier capable d'allier la puissance rock à une sensibilité théâtrale. En 1975, il publie l'un de ses titres les plus marquants de sa carrière, Say It Ain't So Joe, ballade poignante écrite dans un climat de désillusion politique. Derrière sa douceur mélancolique, la chanson semble exprimer la perte d'innocence face à l'effondrement d'un héros, mais nous découvrirons dans cette interview le véritable enjeu politique lorsqu'on lit correctement entre les lignes. Interprété avec une retenue vibrante, le morceau devient rapidement l'un de ses emblèmes. En France, il est accueilli avec une ferveur particulière et contribue largement à la relation privilégiée qu'entretiendra Murrayhead avec le public francophone. L'artiste renoue ensuite avec un succès mondial massif en 1984 grâce à One Night in Bangkok. Bangkok, Oriental sitting in the city, don't know what the city is. Extrait de la comédie musicale Chess, sa structure audacieuse mêlant pop électronique, spoken word et envolée orchestrale propulse le titre en tête des classements internationaux et l'inscrit définitivement dans la culture pop des années 80. Parallèlement, Murrayhead poursuit une riche carrière d'acteur. Il tient un rôle marquant dans Sunday Bloody Sunday en 1971 de John Schlesinger, puis il multiplie les apparitions au cinéma et à la télévision, aussi bien au Royaume-Uni qu'en France. Attiré par la culture française et chaleureusement accueilli, il finit par s'installer dans le Béarn. Sa maîtrise de la langue, son humour et sa sensibilité font de lui un artiste apprécié et proche du public. Tout au long de sa carrière, Murrayhead enregistre des albums précieux. Now my head is hanging down with these prison wall blues. What will make me a divine clown? I got no time to lose. Comme Nigel Life, Between Us, Voices ou Innocence, chacun révèle une écriture personnelle, fine, parfois autobiographique, mêlant pop, folk ou influence théâtrale. Et sur scène, Murrayhead cultive une présence chaleureuse, presque intime, qui fidélise son public au fil des décennies. These prison wall blues keep rolling across my mind. Aujourd'hui encore, il continue de se produire et de créer, porté par une passion intacte pour la musique et la scène. Artiste singulier, sincère et profondément humain, Murrayhead occupe une place à part dans le paysage musical, en particulier en France, où son œuvre résonne avec une intensité durable. Voici la première partie de cette interview exclusive que Murrayhead a bien voulu accorder à Radio 666, une interview passionnante dans laquelle il se livre sans retenue, attachant, subtil, clairvoyant, créatif, vif et pertinent. Murrayhead est un modèle de talent pur, de volonté farouche et d'opiniâtreté, de générosité infinie, d'engagement, d'amour. Il a décidé d'accompagner l'orée de ses 80 ans d'une belle série de concerts en France à ne pas manquer. Mardi 16 décembre à Jonzac au Centre des Congrès, jeudi 18 décembre à Angers au Théâtre Chanzy et vendredi 19 décembre à Bordeaux à la Salle des Fêtes du Grand Parc. Pour les concerts 2026, samedi 14 février à Besançon au Micropolis, jeudi 5 mars à Paris Olympia, samedi 7 mars à Valdanas le Rhodes, samedi 14 mars à Conflans-Sainte-Honorine, Théâtre Simone Signoret. Voici cette interview. Murrayhead, bonjour.
Bonjour.
Je suis très heureux d'accueillir le plus francophone des chanteurs britanniques. Très heureux de pouvoir échanger avec vous. On vous connaît bien sûr comme chanteur et acteur depuis plusieurs décennies. La première question, j'ai envie de vous demander, si un jeune auditeur vous écoute pour la première fois, par quelle chanson aimeriez-vous qu'il commence?
Oh, vraiment, j'ai pas de choix. C'est pas à moi de choisir. Ça fait partie de mon attitude maintenant, qui est différent qu'avant, dans le sens que d'abord j'ai appris que quand on compose une chanson, on avait une tendance de mettre, quand on mettait les paroles et la musique ensemble pour la première fois, on régalait chez soi, puis on le faisait écouter à sa femme ou à ses parents ou je sais pas, des gens près, et c'était toujours trop pour réfléchir parce que ils avaient une opinion complètement différente que la mienne.
Ouais.
Et j'ai appris à vraiment en baver d'une chanson qu'on a écrite, vraiment tomber amoureux jusqu'au point qu'on commençait à voir, ça commençait à faire chier, on l'a trop écouté. C'est à ce moment-là qu'on offre aux autres, et c'est vraiment, ils peuvent avoir leur opinion, et ça ne fait pas de différence, ça ne me touche pas.
D'accord.
Parce que c'est déjà fini. Et envers ces questions, j'ai chanté, par exemple, Say It and So pour 50 ans devant la public française. Don't you think I'm gonna get it wrong? Ils ont jamais parce qu'ils comprenaient pas les paroles. Ils comprennent quand ils lisent l'anglais, mais ils comprennent pas les paroles en anglais parce que ça passe.
Eh oui, Muriel, on aura l'occasion bien sûr d'évoquer cette chanson tout à l'heure, parce que les paroles, elles n'ont pas été comprises à l'époque. Le sont-elles davantage maintenant, peut-être?
Non, mais à l'époque, j'ai insisté qu'il y avait une traduction, et une traduction, et pas une adaptation.
Voilà.
Français dans le paquet, mais pour une raison ou l'autre, ça ne les est pas arrivé, je sais pas, ils ont pas lu. Et pour ça, en concert, c'était jamais trop difficile, parce que en apprenant, en voyant que les gens, que les Français n'ont pas compris mes paroles, surtout dans ce chanson-là, où c'est une chanson délibérément politique, qui parle de l'impuissance de l'individu envers l'État, et comme le chef d'État a une tendance de nous courtoyer pour des mois avant les élections, notre seul pouvoir, c'est pour 2 secondes avec un croix qu'on met sur un papier. Mais après cela, quand il a gagné, il s'en fout royalement de ce qu'on a demandé et les choses qu'il a promis. Et je parlais de cette impuissance. Et c'était déjà fort à l'époque quand j'ai écrit les chansons qui étaient provoquées par Nixon. Mais les Français l'ont pris tout de suite pour une chanson d'amour.
Ouais, c'est ça.
Pour la cri de quelqu'un qui a été blessé au niveau d'amour avec sa copine qui a rompu ou je sais pas.
Alors peut-être que si davantage de Français étaient allés au lycée anglais de Paris, ça serait mieux passé à ce niveau-là.
Oui. Est-ce qu'il y a un lycée anglais à Paris?
Je ne sais pas. Il devrait y en avoir dans toutes les villes de France.
Je suis sûr qu'il n'y a pas, parce que la France a été arrogante jusqu'au bout.
Ah ouais.
Et c'est cette même arrogance qui a permis les gens pendant les années 60, des années très importantes, parce qu'on changeait de musique. C'était les paroliers, par exemple, ils avaient une tendance de faire une adaptation, parce qu'ils gagnaient 50% pour l'adaptation, tandis que pour une traduction, ils gagneraient 10%.
10%, ouais, c'est ça. Ouais. Ça
c'est terrible. Ça veut dire qu'en commençant à adapter, on écrivait n'importe quoi contre la chanson. Et il y avait, dans la chanson, souvent, ça portait la culture anglo-saxonne, de l'Amérique ou de l'Angleterre. Et tout ça, moi, j'ai trouvé la rage avec laquelle j'ai écrit les chansons, parce qu'elles s'appliquent aujourd'hui beaucoup, beaucoup plus. C'est beaucoup plus sérieux maintenant. Les paroles correspondent tout à fait avec tout ce qu'on a vu en Amérique dans les derniers 2 ans.
Ouais.
Et il y a même Trump dans les paroles, alors.
C'est sur ce terrain-là, Muriel, que je voulais vous emmener tout à l'heure, effectivement. Mais là, plus précisément, il y a une question qui me brûle les lèvres par rapport aux années 60. Je voulais savoir, Muriel, que doit-on savoir, nous, adultes et jeunes de 2025, pour comprendre les années 60, vu d'un jeune artiste de l'époque que vous étiez?
Vous ne pourriez pas, c'est impossible, parce que vous étiez dans une autre évolution.
Ouais.
Dans les gens qui ne vous donnaient pas des adaptations qui correspondaient aux cultures du lien. Vous avez eu ça c'est comme cette mensonge a devenu comme une barrière contre la compréhension française.
Ouais.
Et pendant que nous, on écoutait les Beatles et les Stones, et moi j'ai vu la première fois que les Stones ont joué, alors j'étais au commencement, et j'ai aussi entendu en 62, je pense, la première chanson Love Me Do des Beatles, c'est la même chose. Et entre-temps, parce que nous, on avait des filles au père chez nous, ils avaient amené des chats sauvages,
oui.
Des chaussettes de...
Noir.
Oui, c'est ça.
J'en suis fou, oh, j'en suis fou.
Et c'est une autre révolution complètement. Et je voyais un peu dans les saluts, les copains, les lettres des gens dans ce magazine qui envoyaient des lettres en Angleterre. C'était pour mieux comprendre l'anglais et pour mieux comprendre le français.
D'accord.
Nous, on appelle ça des pen pals, des amis de stylo.
D'accord.
Tout ça, c'est pour dire que j'ai pas fini avec cet Enzo. Pour eux, pour les Français, c'était une chanson d'amour. Et le preuve, c'est que moi, à peu près sur les 50 ans que j'ai circulé cette chanson, j'ai rencontré 20 enfants au moins qui ont été conçus grâce à cette chanson.
Ouais, c'est vrai. Il y a beaucoup de responsabilités de la part de Mouriède.
Ils me présentent comme ça. Alors, j'ai accepté que si j'ai contribué à la productivité de France, plutôt que leur connaissance politique, ça valait la peine. En plus, deux années dernières, on a accepté pour une comédie qui était très secrète, on ne parlait pas de cette comédie, alors je me suis lancé complètement dans le vide avec ça.
Ouais.
J'ai accepté de donner Zaytenso à quelqu'un qui faisait un film qui s'appelait Artus pour faire son film, un petit truc en plus, qui a été un succès énorme.
Oui, complètement, complètement.
On est en vacances ou on n'est pas en vacances?
Tiens.
Et hop. C'est pas grave, elle a l'habitude.
Allez, on se casse. Allez.
Merde, il y avait plus la bagnole.
Je t'ai garé sur une place handicapée, tu t'attendais à quoi?
T'as des nouvelles du nouveau?
Sylvain?
Ouais.
J'ai eu ses parents, là, il arrive.
Sylvain, c'est toi? Je suis Alice. Tu viens avec moi?
Je vous présente Sylvain, les copains.
Bon, on peut y aller, là.
Qu'est-ce qu'on dit au chauffeur?
Fils de pute!
Bon, on fait quoi, du coup? Fais comme eux, là.
Alors...
C'est trop, j'essaie de trouver le truc, je vais trouver le juste milieu.
On va passer un été super ensemble et je suis hyper contente.
Très, très très proche, hein.
Ça c'est sûr, jour et nuit.
Allez, va.
Yo, putain, qu'est-ce que tu fous là, toi?
Tu n'es pas handicapé.
Si, tu veux pas handicapé, moi.
Bah, on voudrait pas.
T'as raison, je suis pas handicapé. Et tu dis rien à personne, hein?
Je dis rien à personne. À pas Ludovic.
C'est qui Ludovic?
C'est ma petite bite! Tu sais ce qu'ils font en prison dans les douches?
Pardon?
Je sais que le passé c'est passé, mais y'a qu'à toi que je peux me confier.
Remonte!
Pourquoi ils nous regardent, les gens?
Oh les vamères!
On vous emmène!
Et ça fait clic! Clic clic pam pam pam! Ma chérie, t'es trop séduite.
Ah, oh là là. Oh putain, Marie.
C'est parti droit dans sa gueule.
C'est pas grave, ça lui arrive tout le temps.
Say it ain't so, Joe, please. Say answer. That's not what I wanna hear, Joanna. Got a right to know.
Alors, dès que j'ai vu le film et j'ai vu ma chanson représenter un peu la victoire à la fin ou la vérité à la fin, j'ai compris que elle sert pour des gens différents. Elle sert complètement pour des autres sujets. Et j'ai compris qu'il faut lâcher cette espèce de
d'interprétation.
Ouais. Oui.
Voilà. Alors, ça, c'est important parce que c'est vrai que parfois, l'auteur peut se sentir trahi. Là, je vais parler de manière plus générale par rapport à l'interprétation de son œuvre, que ce soit une chanson, que ce soit un livre. Mais je voudrais revenir quand même sur ces fameuses années 60 parce que le contexte social et artistique à Londres, il y avait les Animals, il y avait les Yardbirds, on en a parlé, il y avait les Rolling Stones. Il y a eu l'arrivée de Jimi Hendrix, il y a eu Pink Floyd aussi. On va parler de Pink Floyd, ça c'est un groupe fantastique et j'ai trouvé que vous aviez beaucoup de connexions, même si vous n'avez jamais été invité sur leurs albums, avec en plus un papa réalisateur, une maman actrice, donc baigné dans le cinéma et dans la musique. On peut aborder également tous ces aspects-là et notamment le cinéma, Muriel, parce qu'il y a quand même des choses à côté desquelles ça serait difficile de passer. Il y a des moments marquants et incroyables de votre carrière.
Il faut parler des choses dans le contexte.
Oui, tout à fait.
Par exemple, si vous avez parlé des années 60 et de comment c'est arrivé, on arrivait à un point de maturité. Moi, j'avais 20 ans. Alors, 62, j'avais 16 ans. Et ce qui est intéressant, c'est que on a piqué une culture d'ailleurs. Les promoteurs anglais ont découvert qu'il y avait pour très peu de temps en Amérique un recyclement de blues dans les années 50.
Ouais.
Et il y avait des chanteurs de blues vraiment à source. Ça venait d'eux. Et ils étaient même assez vieux. Et le moment quand ces promoteurs ont allé en Amérique, ils ont trouvé que le fameux vague ou ce côté fashionable est disparu, que ces gens noirs travaillaient dans les ascenseurs ou dans les shops publics, et ça vraiment, ils étaient très contents de venir en festival l'un après l'autre. Il y avait une vingtaine, une trentaine qui venaient de là-bas en Angleterre en même temps. Ça coûtait presque rien comme artiste. Et ils pouvaient enchaîner l'un après l'autre. Il y avait Muddy Waters, il y avait...
We got one more we're gonna do and then we're gonna call up everybody. I got my mojo working, woman. You hear me? Just don't break on you. Got my mojo working, buddy. Just don't break on you. I wanna love you so bad till I don't know what to do.
Il y avait
Sonny Boy Williamson.
Sonny Boy Williamson avec son harmonica.
One of the greatest of all times, a harmonica, and a very good singer, a handsome fella. By the name of Sonny Boy Williamson.
Claire, it's a pity. And God knows it's a crying shame. The woman waited till it got 9 below 0 and put me down for another man.
Il y avait
Memphis Slim.
Oui, continuez.
Otis Rush.
Ouais, Otis Rush. On l'a vu moins, Otis Rush.
T-Bone Walker.
Ouais, oui. Et il faut comprendre que la bourgeoisie anglaise a saisi cette culture parce que déjà c'était simple à jouer. Deuxièmement, il y avait plein d'émotions là-dedans. Et ça correspondait à leurs besoins d'une cri primale. La bourgeoisie anglaise avait besoin d'une cri primale. Ça, vous n'avez pas eu en France.
C'est vrai.
À l'époque.
Alors, le Blues Boom Revival qui est né effectivement en Angleterre, mais grâce aussi à des musiciens anglais. On peut citer Alexis Corner, on peut citer John Mayall par
Alexis,
exemple.
Alexis, il était plus vieux que les autres.
C'est ça.
Had a woman, had a mouth full of shiny gold. I had a woman, had a mouth full of shiny gold. Now that woman made trouble every place she go. She had a man on her mind, had a kid man. Just a kid, she had a man on her mind. Had a kid, man, just a kid. She had so many men. Yes, she could use that kid.
C'était un des premiers.
Ouais.
Et lui, il ramassait. Moi, j'étais emballé par quelques groupes qu'il a ramassés des années 20. C'était quand même des Anglais où la société s'intéressait au niveau des écoles à des techniciens, à des scientifiques, à des professionnels. Et ils s'en foutaient de la culture et des arts. Ce qui fait qu'il y avait quand même pas mal de collèges d'art et il y avait pas mal d'enfants qui refusaient le mainstream et qui refusaient d'être scientifiques ou techniciens et on s'en foutait d'eux et ils étaient ramassés par les écoles d'art. Et c'était dans les écoles d'art que les Yardbirds, moi j'ai vu le blues de... Pour moi, il y avait, j'habitais très près d'un endroit où on voyait tout le monde, ce qui s'appelait Eel Pie Island. C'était un îlot dans la Tamise où tous les week-ends il y avait que des blues. Et moi j'ai vu la montée de plusieurs personnes. J'ai vu la montée de Jeff Beck, il a commencé avec les Night Shifts, et puis après ça c'était le Trident, et après ça avec les Yardbirds. Yardbirds qui récupérait tous les bons guitaristes à l'époque. Moi j'étais en école avec au-dessus de moi par 2 ans le bassiste Paul Simon Smith, le bassiste de Yardbirds, et puis il y avait le batteur Billy Smith, Et puis, je sais pas d'où ils ont récupéré Keith Ruff, mais à un certain moment, il est mort. Et il y avait aussi l'évolution de Long John Baldry à côté de lui. Il a tombé sur Rod Stewart qui jouait de l'harmonica. Et il a dit, est-ce que tu peux venir jouer pour nous ?
Can I come home with, can I come home with you? Tell your mother and your papa, I once was a schoolboy too. Sometimes I don't know why, sometimes I don't know why, why the new world, why the new world. Well, I don't wanna hurt your feelings or even get mad at you.
J'ai vu Rod Stewart commencer sans chanter du tout, il faisait que de l'harmonica et vachement bien.
Il y avait déjà Ron Wood à l'époque avec lui ?
Non, Ron Wood était avec des Byrds à ouais. Harrow, mais c'était exactement la même chose, c'était les blues dans les banlieues, c'était dans le banlieue de Londres, et il y avait... C'est bizarre, c'est peut-être parce que c'est. Il y avait aussi le Sen et le Flamingo, et puis on voyait plutôt les Allemands et les gens d'ailleurs qui jouaient là.
Sit here lonely like a broken man. Sell my time and do the best I can. I wasn't balls that surrounding me. But I don't want your sympathy, yeah. Oh, baby. Oh, baby, I just need your tender loving to keep me sane in this burning oven. When my time is up, be my reaper. Like God's work, I'm God's cleaner. My reaper, my reaper. Baby, tell me it's my reaper. Yeah.
J'ai vu la première fois que Jimi Hendrix a joué à Blazes à Londres. Sur l'aile de Chas Chandler des animaux.
Oui.
C'était, ça n'arrêtait pas. C'était partout.
Voilà, donc là, on contextualise bien sûr Montréal. C'est une période fantastique. Vous parliez tout à l'heure de changement de musique. On est vraiment là-dedans. On a souvent l'habitude dans l'émission de parler de la décennie 1965-1975 qui a vraiment cristallisé tous ces événements. Et puis, bien sûr, les groupes suivants sont arrivés. Pink Floyd, Led Zeppelin, etc. Voilà, tout ça, c'est passionnant.
Mais il faut comprendre des choses très importantes qui ont influencé cette explosion de musique. Il y avait d'abord, on ne s'intéressait pas à nous, alors ça nous a donné une liberté énorme.
Oui, c'est ça.
Ce qui fait qu'on pouvait faire ce qu'on veut. On s'en foutait du radio, c'était pas important, il n'y avait pas assez et ça ne nous amusait pas. Je pense que la musique a commencé à devenir consciente d'elle-même et elle a devenu plus noire aussi. En 69, mon frère qui était né plus tard que moi, il a 8 ans de différence, il a jamais vécu ce qu'on a vécu avec la musique. C'était déjà les maisons de disques, par exemple, ont commencé à réaliser qu'il y avait de l'argent dans la musique moderne. Et ça, c'est à la fin des années 60. Et dès qu'ils ont compris, ça changeait la forme de musique. À l'époque, au commencement, dans, en 62, moi j'avais une groupe, et je me souviens très bien que on espérait un jour peut-être faire un 45 tours. Et des fois, on était visité tous les deux ans par quelqu'un qui venait d'une maison disque et qui disait, est-ce que ça vous intéresse ça? Cette chanson-là, c'est vous qui avez écrit? Oui, c'est nous. C'est pour accompagner tous les covers qu'on fait. Et c'était intéressant. Ils ont proposé peut-être un simple, mais on attendait 2 ans, 3 ans, 4 ans pour qu'ils revenaient et demandaient de faire un autre. C'était pas encore le 33 tours qui commençait à dominer dans les années fin des non 65.
Oui, c'est ça, avec peut-être les premiers vraiment albums des Beatles par exemple ou des Rolling Stones.
Il faut comprendre que les Beatles, c'est la même chose que le reste. Ils ont eu, avec la liberté qu'ils avaient, qu'ils n'étaient pas influencés par l'argent ni par les maisons disques et tout ça, eux, ils ont évolué en même temps que leurs fans. Mmh. Et ça, c'est énorme. Oh, darling, please believe me. I'll never do you no harm. Believe me when I tell you. Il y avait encore un autre passage, un autre era de musique potentielle. Il y avait le punk pour un peu, pour ramasser et pour rincer, pour clarifier les choses. Le punk musique a détruit la musique des années 60 et tout ça. Et elle a été suivie très vite par un mouvement qui comprenait, ben, il y avait Altavox, il y avait, je sais pas, c'est, moi, j'étais penché vers Nick Kershaw. Kershaw et Howard Jones. Mais les deux, et Boy George, les gens comme eux, ont vécu que 2 ans de carrière sérieuse, parce que à ce moment-là, il y avait tout le média qui nous a attrapés, quoi.
Parce que voilà, on avait passé la fameuse année 1975, celle de Say It and So, justement. C'était vraiment un coup de boutoir et je pense que vous en êtes en partie responsable.
J'aime Murray Head parce que c'est un gentleman.
Moi aussi j'aime Murray Head parce que tous ses titres sont intemporels. Say it ain't so, Joe,
please. Murray Head avec Marc Loison, c'est sur Radio 666.
Il y a le besoin d'être vrai à soi-même.
Est-ce qu'on peut évoquer un petit peu votre carrière cinématographique, Muriel ? On ne va pas passer en revue tous les films, mais il y a quand même des moments marquants, notamment ce film qui s'appelle Sunday Bloody Sunday, traduit en français, Un dimanche comme les autres, donc ce film de John Schlesinger, primé au BAFTA, les British Academy Film Awards en 72, meilleur film, meilleur réalisateur, meilleure actrice, meilleur acteur, meilleur montage. Dans ce film, vous jouez le rôle de Bob Elkin, un sculpteur qui est au cœur d'un mariage bisexuel à trois entre Daniel, joué par Peter Finch, un médecin juif quinquagénaire, et une jeune femme, Alex, qui est jouée par Glenda Jackson. Les deux amants se connaissent de vue, mais préfèrent ne rien dire par peur de perdre Bob, c'est-à-dire vous.
We're free to do what we want.
Other people often do what they don't want to do at all.
A new film from the Academy Award-winning director of Midnight Cowboy, Sunday, Bloody Sunday.
Est-ce que vous pouvez nous préciser, Muriel, quelles ont été les circonstances qui vous ont amené à tourner ce film et quelle est, en quelques mots, la scène qui a véritablement dérangé, non pas le réalisateur, mais jusqu'au cadreur? Ça, c'est incroyable.
Ben oui. Je pense que, en effet, au point final, je viens de reviser tout ce que j'ai vécu sur ce film avec un nouveau point de vue. Terrence Stamp vient de mourir. Et lui, il a fait un film avec Schlesinger. Il a fait Far From the Madding Crowd. Loin de la foule déchaînée.
In this place of calm and beauty, of deep and primitive emotions, the woman Bathsheba Everdeen lived. And here she gave herself to three men. Far from the madding crowd.
C'est un livre d'un écrivain anglais très connu.
Thomas Hardy.
Mais oui.
Thomas Hardy.
C'est une pièce très importante. Et j'ai vu un documentaire sur Terrence Stamp qui disait qu'il a appris comment jouer dans un film sans l'amour du metteur en scène, sans l'intérêt de personne. Parce que en faisant ce film, j'ai jamais senti aussi seul.
Ah oui.
Et ce que j'ai vécu après, c'était une sorte de silence dans le respect pour le metteur en scène. Loin de la foule déchaînée. Terrence Stamp a joué un soldat. Et on venait d'apprendre que les soldats, qu'on les prenait que ceux qui tenaient l'épée avec la main et le bras droit, tandis que Terrence Stamp était un gaucher. Alors il a pris tout le film à apprendre à faire ça avec de la confiance. Ce qui était clair avec tout ce qu'il a raconté, c'était que le metteur en scène avait besoin de nous faire perdre nos confiances, confiance en nous-mêmes. Et j'ai jamais vraiment compris ce qu'il voulait de moi. Jouer un bisexuel, bon, c'est pas 100% clair. Il faut vraiment pouvoir mixer avec des gens comme ça pour les connaître et qui connaissent comment jouer. Mais enfin, c'était pas ça, c'était que Schlesinger a vécu cette histoire.
Voilà, d'accord. Ouais,
c'est, et ça. C'est lui le docteur juif et Glenda joue la femme qui tenait leur mec.
D'accord.
Et j'ai même rencontré le mec, le vrai mec.
Ah ouais, incroyable.
Et j'étais vraiment, je pense que le mot est désappointé. C'était quelqu'un dans lequel j'avais aucune confiance. Et c'est le genre de mec qu'on imaginait qui existait à l'époque. Mais à un certain moment, je savais vraiment pas ce que je faisais. Parce que le metteur en scène était naturellement plus intéressé par Peter Finch et par Glenda Jackson, dans le sens que c'était eux qui compromisaient, c'était leur compromis, leur sacrifice. Et que c'était beaucoup plus intéressant le fait qu'ils commençaient, ils essayaient de s'adapter pour partager quelqu'un.
Ce que vous êtes en train de m'expliquer, c'est que vous étiez le personnage central et eux deux étaient les personnages principaux.
Exactement, exactement. Ce qui fait que personne centrale est vue dans un sens poétiquement flou.
Oui, voilà. Ouais.
On le voit pas vraiment. Et alors, j'étais prêt à assumer ce rôle, mais il voulait plus. Et je me souviens que si j'aurais été plus de personnalité, j'aurais vraiment lutté avec leur caractère. Et le balance, l'équilibre de ce film aurait changé. Alors, je me trouvais pendant ce film le seul jeune, la seule personne qui pourrait représenter toute la jeunesse.
Oui.
Quand on voyait les petits garçons, ils étaient en train de tirer des clés sur la peinture des voitures. Ils étaient fumés des joints à l'âge de 7 ans. C'était des enfants gâtés. Je sais pas, c'est des enfants qui correspondaient un peu à des familles bourgeoises anglaises. Et c'était plutôt la crise de bourgeoisie sur laquelle ce film est basé.
Oui, voilà.
Et ce qui est intéressant, c'est que lui, Schlesinger, a commencé avec des films documentaires. Il a fait un film sur une gare anglaise, Waterloo, qui est fabuleux.
Waterloo, Bob.
Good morning to you. How are things this morning?
Yes, everything's okay here.
All right, keep me advised. Thank you.
Thank you.
Down the main street. Right, Dave, right away, number
one. C'était bien filmé et c'était très vivant. Et de ce point, il a continué à faire des films très branchés sur, on l'appelait à l'époque dans les années 60, des kitchen sink dramas, des dramas autour de la cuisine. C'est pour montrer ce qui se passait dans le Nord, parce qu'il y avait un risque de centraliser trop sur Londres, et on commençait à faire des films sur la classe ouvrière, des films sur des gens normaux. Et Schlesinger a fait... Et chaque fois qu'il fait un film, il ne peut pas s'empêcher
montrer... On connaît tous par cœur Midnight Cowboy, hein, franchement.
Oui.
Everybody's talking at me, I don't hear words they're saying, only the echoes of my mind. People stop and stare, I can't see their faces, only the shadows of their eyes.
John Schlesinger,
1969. Midnight Cowboy, c'était un film raté. Avant qu'ils ont changé l'éditeur et c'était sauvé par l'éditeur. C'est incroyable.
Incroyable ça. Souvent, avec Dustin Hoffman et John Voight, comment est-ce qu'on peut rater un film?
Ah oui, non, apparemment c'était raté au commencement, avant que le succès énorme que ça a eu. Mais c'est souvent parce que il fait attention au backdrop, ce qui se passe derrière. Et si on regarde avec un autre œil ce film, on réalise qu'il est en train de parler des grèves des mines, des journaux où il y a encore des grèves, que la bataille entre la classe ouvrière et la bourgeoisie, etc. Et c'est tout là-dedans. Et il faut comprendre que c'est même négatif. C'est un point de vue assez... sombre et un peu, c'est pas positif du tout.
Ouais.
Ça parle l'Angleterre dans une sorte de crise éternelle. Et dans tout ça, s'il y avait une chose dont je servais, c'était le fameux quand j'embrasse Peter Finch.
I told you, it'll have to be your choice.
Sunday, Bloody Sunday.
I do love
you. Thank you, sir.
Et c'est fait avec. Dans un couloir d'une maison, c'est fait avec émotion, mais c'est fait sans
Sans emphase.
Je ne sais pas si c'est le mot. Le mot, c'est quand quelque chose est souligné, c'est trop.
Oui.
Nous, on utilise l'expression « conscient d'elle-même ». Et moi, je l'ai embrassé sans le dire que ça arrive d'un coup. Et ce moment-là, ça coûte rien, mais enfin quand même, c'est ce qui reste de ce film, parce que quelque part, moi j'ai rencontré par exemple quelqu'un qui a fait tous les films à la télé depuis longtemps, c'est un genre de critique, qui m'a expliqué qu'il a sorti du placard avec ce film. Et quand il est venu chez moi pour me poser des questions, c'était, il cherchait en moi si j'avais aussi cette... C'est un moment de la vie où tout change, on réalise vraiment la...
Révélation.
Oui, c'est une révélation, voilà. Mmh. Et pour lui, c'était une révélation. Et il voulait chercher en moi si j'ai eu le même sentiment en jouant ce caractère.
Ouais.
Mais pas du tout, parce que...
Donc ça n'a pas été forcément une expérience qui était soit un frein ou un moteur pour la suite de vos choix de carrière, c'est ça aussi, Muriel?
Pas du tout. Ça m'a... La seule chose que ça fait, c'est que pour 2 ans, 3 ans après, j'étais, les gens m'ont envoyé des scénarios inférieurs sur des histoires d'histoires gays. Et moi, j'avais vraiment... je comptais pas sur ce film de me donner un lancement de carrière.
Voilà, et puis c'était pas non plus l'idée
J'ai accepté parce que c'était... J'aimais le scénario.
C'était pas l'idée de conserver le même archétype, le même style d'acteur, en fait.
Ah non. Voilà.
Il y a également dans la partie musicale de ce film, parce que la musique et le cinéma sont vraiment incroyablement mêlés dans votre carrière, Muriel. Il y a l'incroyable Ron Gessing, qui est né en 43, qui signe la partie musicale de ce film. Hein. Il avait d'ailleurs travaillé l'année précédente sur Atom Heart Mother de Pink Floyd comme co-composeur.
Ouais.
Et on retrouve Vicky Brown, choriste de Pink Floyd, en tournée comme chanteuse sur votre titre de 1975, You're So Tasty. Il y a aussi Lisa Strike, et choriste dans Dark Side of the Moon. Et ça m'amène à une question à propos du groupe Pink Floyd. Est-ce que vous avez eu d'autres connexions que ça avec ce fameux groupe anglais ?
Non, j'ai courtoyé parce qu'ils ont grandi en même temps que moi.
Ouais.
Comme ils ont évolué avec leur public, moi aussi avec eux, autant que les Beatles, autant que les Stones. Les Stones un peu moins parce qu'ils ont changé de forme pour un moment. Et ils ont retrouvé leur ancienne forme dans les années 70. Mais ce qui était intéressant avec Floyd, c'est que avec Atom Heart Mother, ça m'a donné l'idée de... Il y a une chanson, Breakfast, et il y avait deux gens qui parlaient là-dedans. Et c'était la première fois qu'on a entendu des gens parler dans une chanson. Et c'était plutôt musique.
Ah oui, Alan's Psychedelic Breakfast.
Oui.
Voilà, ça y est.
C'est ça. C'est ça.
Oh, we flakes.
Oh,
then scrambled egg, bacon, sausages, tomatoes, scrambled
toast,
egg, bacon, sausages,
coffee,
tomatoes,
scrambled toast,
marmalade. I like marmalade. Marmalade. I like marmalade. Yes, porridge is nice. Any cereal, like all cereals. Yes, porridge is nice.
Oh, God.
Any cereal, like all cereals. Yes, porridge is nice.
Oh, God.
Any cereal, like all cereals. Yes, porridge is nice.
Oh, God.
Et ils sont en train de parler là-dedans. Et ça m'a vraiment touché. Jusqu'au point que j'ai fait... Moi, j'ai fait... tout un disque avec les sons de la nature derrière, qui s'appelait Nigel Lives, ce qui était une sorte de... moi, je voulais avoir un disque qu'on mettait des casques et il y avait des sons naturels là-dedans, ce qui fait que c'était comme un film.
Ouais.
Et c'est ça que j'ai cherché. J'ai écrit le succès d'un garçon qui venait d'hériter de l'argent de son père et qui va à Londres pour le Swinging London. Et il a du succès sur les premiers 7 chansons. Et après ça, c'est la décadence. I was pacing on the station, watching all the cars go by. Voice of two of mine. Make your name in this town is by leaving it forever. Live your life at Waterloo. Mystery like the weather. You think time is so exciting? I think I saw the train. Get all the stars and do your work. I'm going to be over. See what you never know, what you find. What you made me feel. What you made me feel. It's more pressurizing instead of walking down. Best to get up walking. There's never what you find. Station has to bury.
Back to Swindon and then back to Erin. Oh, steam, yeah. Just like all the other bones, you'll always be the same. Get on this path to free your mind. Leave all the old world back and behind. See what you will remember and what you find. What you made me feel. Thought you made me feel.
Have I paved the way to hell? Leaving town is so exciting. I think I saw the train. I get all this past to free your mind. Leave all the old folks back on behind. See what you will and what you find. What you may be flame. What you may.
Il a commencé, alors il va vers la mort. Et ça, c'était, je me sentais responsable quelque part de ma génération qui était en train de se tuer avec pas mal de héroïne. C'était la drogue des années 60 qui
ouais,
tuait.
60, 70.
J'aime Murray Hale parce que c'est un gentleman.
Moi aussi j'aime Muriad parce que tous ses titres sont intemporels. Say it ain't so, Joe,
please. Say it ain't so. Mary Head avec Marc Loison, c'est sur Radio 666.
Il a besoin d'être vrai à soi-même.
Merci à Murray Head pour cette interview. La seconde partie sera diffusée la semaine prochaine à la même heure. Mardi 16 décembre à Jonzac au Centre des Congrès, jeudi 18 décembre à Angers au Théâtre Chanzy et vendredi 19 décembre à Bordeaux à la Salle des Fêtes du Grand Parc. Pour les concerts 2026, samedi 14 février à Besançon, Micropolis, jeudi 5 mars à Paris Olympia, samedi 7 mars à Valdanas, Le Rhodes, samedi 14 mars à Conflans-Sainte-Honorine, Théâtre Simone Signoret.
Joe, please tell us it ain't so. They told us that our hero had played his trump card. He doesn't know how to go on. They're clinging to his charm and determined smile, but the good old days have gone. And the info may be falling apart. The money has gotten scarce.
One man's word held the country together, but the truth is getting fierce.